Radio Chablais, suivez-nous, on vous suit.
Radio Chablais, programme de nuit. Bon.
C'est chaud. Sur le grill.
Nouvelle génération, c'est une conférence qui a lieu ce 5 mai à 18h à Martigny. On en parle avec Yam Delaloy. Bonjour, bienvenue.
Bonjour, merci beaucoup de m'avoir accueilli aujourd'hui.
Avec plaisir. Alors Yam, il y a tout un parcours à expliquer. Déjà, juste expliquer cette conférence. Nouvelle génération qui vous tient spécialement à cœur. Pourquoi et qu'est-ce qui va se passer à Martigny ce 5 mai?
Alors ce 5 mai, nous allons accueillir 7 jeunes de la région qui ont fait des parcours atypiques, qui ont fait des levées de fonds pour des associations, qui ont fait des aventures dans la nature, qui ont apporté quelque chose de positif à la société, qui vont pouvoir nous parler un petit peu de tout ça ensemble.
Le but, c'est qu'ils parlent en fait de leur expérience et qu'ils transmettent un petit peu leur jeune expérience et jeune savoir pour montrer qu'il y a des jeunes qui se bougent.
Exactement. C'est vraiment de pouvoir apporter au maximum de l'espoir un petit peu dans cette société qu'on a besoin actuellement.
Alors justement, cette conférence, elle sera au profit d'une fondation, c'est la fondation Moi pour Toi, dont vous faites partie. Expliquez-nous les buts et raisons de cette fondation, la fondation Moi pour Toi.
Alors la fondation Moi pour Toi aide les enfants défavorisés de la région de Pereira en Colombie. Étant adopté moi-même en Colombie, ça m'est paru logique et normal d'apporter mon aide aux enfants qui n'ont pas eu la même chance que moi.
Alors, vous, vous avez participé à une récolte de fonds, si je ne me trompe pas, l'année passée. Vous avez fait une marche de 112 km sur 24 heures. Vous avez récolté 10 000 francs. Pourquoi vous avez ressenti ce besoin? Vous l'avez dit, vous êtes vous-même colombien d'origine, vous avez été adopté, donc vous vous sentez proche de cette fondation. Mais pourquoi ensuite on passe l'étape tout à coup de vouloir récolter de l'argent?
C'est un projet où j'ai voulu allier hommage avec le décès de mon ami à travers cette marche de 24 heures et 112 kilomètres, et en même temps apporter du soutien. Je me suis dit on allait faire un complément, de pouvoir faire un hommage digne de ce nom et en même temps pouvoir aider les gens.
Suite à la disparition d'un ami, vous vouliez participer, faire quelque chose, être actif justement, puis récolter de l'argent dans ce parallèle. Ce projet s'appelait UPEC. Ça voulait dire quoi, UPEC?
UPEC voulait dire un périple de persévérance et de courage, donc une marche de 24 heures et 212 kilomètres, avec énormément de préparation, mais qui a pu rendre beaucoup de personnes heureux.
Alors, quand vous récoltez ces 10 000 francs, quand vous êtes en train de marcher, comment ça se passe dans votre tête à ce moment-là, l'année passée?
Beaucoup de stress, beaucoup de préparation, évidemment. On ne se rend pas vraiment compte de la marche qui arrive jusqu'à quelques jours avant. Un peu comme ce qui est en train de se passer actuellement aussi. On commence à sentir le stress un petit peu de la soirée qui va arriver. Mais on travaille et puis on essaie de garder la tête dans le guidon jusqu'au jour J.
Alors la conférence, on va en reparler dans quelques instants, mais entre justement faire une conférence, préparer une conférence et préparer 112 bornes de marche pendant 24 heures, physiquement c'est un investissement différent, mentalement aussi quand même.
Effectivement, c'est complètement différent, c'est un investissement qui est tout nouveau aussi, c'est un des nouveaux enjeux et puis un nouveau défi pour une nouvelle année.
Alors cette conférence Nouvelle Génération, expliquez-nous un petit peu qui va y avoir et ce que vous allez présenter.
Alors on aura la chance d'accueillir Marine et Diego, qui font partie de l'équipe Valais Valis Racing Team, qui ont construit du coup une voiture de course totalement électrique et participé à la compétition d'ingénierie la plus grande au monde.
Alors justement, pour les jeunes justement et qui créent ce genre de véhicule, c'est une vraie compétition, hein, on le rappelle. Et puis ensuite, alors d'autres intervenants.
Exactement, on va avoir du coup Loïc Kaplan, aventurier un peu à la Mike Horn, qui a pu aller dans des biomes comme le désert, l'Amazonie et aussi l'arc polaire. On aura Maxence Roduit aussi, un ami qui a perdu l'usage de ses jambes suite à un accident de parapente et qui aujourd'hui marche de nouveau. Et puis on accueillera aussi évidemment Guillaume et Maxence, Guillaume Marais et Maxence Caron, qui auront traversé le lac Léman à la nage aussi pour une association il y a quelques mois auparavant.
Je rappelle que des jeunes de moins de 30 ans, voire moins de 25 ans, qui s'investissent dans ces différents projets suivant les âges.
Exactement, approximativement dans ces âges-là.
On rappelle donc Nouvelle Génération en faveur de la Fondation Moi pour Toi, conférence Nouvelle Génération ce 5 mai à 18h à Martigny, à la salle communale, c'est bien ça?
Exactement, salle communale de Martigny à partir de 18h.
Moipourtoi.org pour toutes les infos. On se retrouve dans quelques instants, ok?
Merci, à tout à l'heure.
Sur le grill.
Retrouvez vos rendez-vous quotidiens durant la nuit.
Sur le grill.
Avec Yam Dolaloy, un jeune qui se bouge pour la fondation Moi pour Toi. Il organise avec toute une équipe la conférence Nouvelle Génération ce 5 mai à 18h à la salle communale de Martigny. L'objectif, récolter des fonds justement pour la fondation Moi pour Toi avec différents intervenants. Rappelle-nous juste un peu les intervenants quand même, Yam, parce qu'il y a quand même des chouettes jeunes qui sont des jolis exemples.
Alors, nous retrouverons Loïc Kaplan, un explorateur autodidacte qui a bravé la jungle, le désert et le grand froid. Nous aurons Maxence Roduit, un passionné de montagne qui a surmonté suite à un grave accident.
De parapente, hein.
De parapente, exactement, qui a failli lui coûter la vie.
Et puis qui fait maintenant des 4000.
Exactement.
Marine Rébété et puis Diego Cacciatore.
Deux étudiants de l'HES qui conçoivent une voiture électrique pour la compétition Formula Student, la plus grande compétition d'ingénieurs au monde dans le domaine.
Et puis toi, justement, entrepreneur et sportif, qui a marché 112 km l'année passée en 24 heures pour récolter 10 000 francs. Et Maxence Caron et Guillaume Marais.
Oui, fondateur de l'association Prime Athletics et qui ont effectué la traversée du lac Léman à la nage.
Qu'est-ce que vous allez raconter dans cette soirée? Pourquoi vous organisez cette conférence? Alors, pour soutenir, oui, mais quel message vous voulez passer?
Le message qu'on aimerait passer, c'est de démontrer que dans cette société qui... par moments manque d'espoir, qu'il y a toujours une lueur.
Et puis que des jeunes peuvent se bouger et faire des choses, en fait.
Exactement, et que la nouvelle génération, comme le titre de notre équipe, est là pour pouvoir...
peut aussi se bouger.
Exactement.
Alors, il y aura aussi des démonstrations avec Dakota et Nadia pour des démonstrations de danse, les célèbres Dakota et Nadia, ainsi que Kevin et Natalia, ça c'est pour des démonstrations de pole dance, c'est bien ça ?
Exactement.
Une soirée qui sera donc animée. Et puis alors, si on veut aider, justement, comment on fait ? On vient ce soir-là et ensuite ?
Vous venez ce soir-là, le premier verre est offert et par la suite, toutes vos consommations seront reversées directement à la Fondation et des codes QR aussi seront à disposition pour pouvoir participer durant toute la soirée.
Donc des conférences pour découvrir l'univers incroyable de ces jeunes qui vont présenter justement leurs différents défis, leurs différentes activités. Et puis l'occasion, en plus d'un joli spectacle, de soutenir la Fondation. Moi, pourtant, on rappelle les activités de la Fondation.
Les activités de la Fondation soutiennent les enfants défavorisés de la région de Pereira en Colombie à travers l'éducation, les soins et puis amener la personne à pousser vers les études.
Alors, comme le vieux que je suis, moi j'ai parlé du site internet moipourtoi.org, mais bien sûr, on suit par les réseaux sociaux.
Exactement, vous pouvez directement nous suivre sur yam.coaching. Vous aurez toutes les informations nécessaires, des petites vidéos, des petits reels de présentation de chaque personne.
Et puis alors toi, yam.coaching, c'est ta page, parce qu'il y a un prochain défi que tu proposeras, si tout va bien, au mois de juin. Fais-nous rêver.
Exactement.
Alors, rêver, je sais pas.
Donc sur cette nouvelle année, nouveau projet, nouveau défi évidemment. Donc on va essayer de faire 10 000 pompes en remerciement aux 10 000 francs qu'on a pu récolter une période d'à peu près de 15 heures.
10 000 pompes en 15 heures, ça ce sera toi qui vas essayer de le faire ?
Exactement.
Tout seul ?
Tout seul.
Comme un grand ?
Comme un grand, exactement.
Et là, il y aura aussi l'occasion de soutenir la Fondation, peut-être, à nouveau, au moyen de dons et autres.
À nouveau, il y aura moyen de pouvoir le faire, mais on n'a pas encore déterminé, donc restez connectés.
Un franc par pompe, ça peut déjà être pas mal. Merci beaucoup, Yam, de l'œil des jeunes qui se bougent, nouvelle génération, en faveur de la Fondation Moi pour toi, conférence nouvelle génération. C'est ce 5 mai à 18h à la salle communale de Martigny, avec les prestations de Dakota et Nadia, ainsi que Kevin et Natalia pour du pole dance. Tout ça, c'est sur moipourtoi.org ou yam.coaching, on l'a dit.
Exactement.
Sur les réseaux sociaux. Et puis, l'occasion d'aller soutenir tout ça. Merci beaucoup, Yam. Bravo.
Merci beaucoup. En tout cas,
bientôt. Ciao, ciao.
À très bientôt. Au revoir.
C'est chaud, c'est chaud. Sur le grill.
Oh, Radio Chablais, programme de nuit.
Radio Chablais.
Le nombril du monde.
Le nombril du monde.
Bienvenue chez nous. C'est plus grand que ce que je croyais.
Le nombril du monde. C'est ouvert, on est du côté du télécabine, on est à Dorena, ou Doren pour les intimes. Ah là, on entend un petit peu plus le vent déjà, hein. Là, on sait qu'on est au pays des éoliennes. Ma très chère guide Yasmine, on vient de rentrer dans le petit télécabine de Dorena,
qui monte à Alès et Champé, donc c'est DAC, Dorena, Alès, Champé.
Bon, ça c'est un véhicule essentiel pour la commune, parce que jusqu'en 86, il n'y avait pas de route qui montait.
Non, effectivement, quand j'étais enfant et même avant, il n'y avait pas de route. Même il n'y avait qu'un chemin. Le téléphérique a été inauguré en 58. Il a été commencé à construire 2 ans avant. Et sinon, les gens, c'était à pied, quoi. Le chemin pédestre pour aller travailler et tout.
Ça faisait des bons mollets parce que c'est assez raide, hein.
Ouais, c'est super raide. Donc effectivement, la montagne se dépeuplait. Et puis le conseil communal a dit qu'il faut faire quelque chose. Et la route s'est pas faite et ils sont partis sur l'idée d'un téléphérique.
Et puis, je crois savoir que ce téléphérique a été un petit peu l'outil, pas de la discorde, mais d'une grève.
Alors, il y a plein de petites anecdotes sur ce téléphérique. Effectivement, en 58, ils font l'inauguration à Pâques, c'est extraordinaire et tout. Et quelques mois après, le conseil communal décide de fermer l'école à l'Est. Il y avait une petite école à l'Est pour les gens de la montagne. Environ 14 élèves qui restaient encore. Et ils se disent, maintenant le téléphérique est fait, on rapatrie ces élèves à Dorena, à l'école de Dorena, et on ferme l'école. Après la joie d'avoir un lien qui relie rapidement la plaine, les gens de la montagne se disent, mon Dieu, la fin de notre école et tout. Donc, à la rentrée scolaire en septembre ou octobre 58, premier jour, pas d'enfants de Champé et d'Alès, deuxième jour, pas d'enfants de Champé et d'Alès, et ainsi de suite. Grève de la montagne, les familles de la montagne ne voulaient pas envoyer leurs enfants à l'école de Doréna.
Du changement, oui, mais pas trop.
Voilà un petit peu ça. Donc la grève, elle a duré quand même bien quelques mois avant qu'ils trouvent...
Quelques mois ?
Ouais, quelques mois en tout cas, quelques bons mois avant qu'ils trouvent une façon de faire. Et puis petit à petit, les enfants, ils ont rejoint la plaine, trouvé d'autres camarades et puis et l'école est... Tout s'est bien passé.
Et puis en plus, c'est pas comme si les gens d'en haut qui cassaient le caillou, qui cassaient l'ardoise, ils ont pas la tête dure, on est d'accord.
Alors, il y a la tête dure des deux côtés du câble.
Hein. Et en parlant de ce câble, toi, il t'est arrivé une petite anecdote aussi assez particulière une fois. Oh mon Dieu, tu me l'as raconté tout à l'heure en micro, j'étais mort de rire. S'il te plaît, partage-la.
Effectivement, donc j'ai commencé l'école début des années 80. C'est pas encore la cabine qu'on voit ici. C'était une cabine plus petite avec des bords, des pans qui a été plus haut, des plus petites fenêtres. Et moi, j'étais toute petite. Donc j'étais, il n'y avait pas beaucoup d'enfants à l'époque. J'étais seule enfant de mon âge là-haut. Le téléphérique n'était pas automatisé. Donc quand on prenait le téléphérique, il y avait un contrôleur qui partait de Champé, qui descendait à l'Est. Là, il s'arrêtait à la station intermédiaire d'Alès, il fermait la porte avec une petite chaîne, lui, il l'attendait, il prenait la cabine qui remontait, et puis moi, je continuais à descendre. Quand j'arrive ici à Doréna, le contrôleur de l'époque, je pense plein de gens s'en souviennent de Lini Pacola, lui, il ne se déplace pas, il voit arriver la cabine, il regarde de loin par les fenêtres, personne, et il s'en va. Donc moi, je reste à 5 ans, toute seule, enfermée dans le téléphérique. J'étais tellement petite que je ne sortais pas aux fenêtres, donc quand j'entendais du bruit, je sautais, mais arrête de rire, je sautais, je tapais contre les fenêtres et je criais. J'ai attendu un petit moment, donc c'était le matin, j'ai attendu un petit moment, et à l'époque, il y avait un kiosque au fond du téléphérique, donc le monsieur du kiosque m'a entendu, il est arrivé, il a ouvert la chaîne, il m'a libéré, mais ça a été quand même un cauchemar et je savais pas qu'ils avaient fait grève, mais pendant quelques semaines, je voulais plus aller à l'école.
Des très beaux souvenirs à chaque fois, c'est le Nombril du Monde et vous le retrouvez en podcast sur radiochablais.ch.
Radio Chablais,
le Nombril du Monde. Retrouvez vos rendez-vous quotidiens durant la nuit.
La question existentielle.
Qui je suis-je? Où je vais-je? Dans quelle étagère?
Sur Radio Chablais.
Alors aujourd'hui, c'est le 1er mai, le premier jour où on peut faire ce qu'il nous plaît, ou presque. Et bien sûr, le 1er mai, c'est aussi le jour du muguet, mais aussi la fête du travail. Ma question, c'est pourquoi on offre du muguet le jour de la fête du travail? Est-ce qu'il y a une corrélation entre ces deux choses? Alors moi, je pensais que ça n'avait rien à voir hein, avec l'histoire sanglante du 1er mai, c'est-à-dire la lutte des classes, les ouvriers qui revendiquent de meilleures conditions de travail et tout ça, tout ça. Je pensais même que c'était à cause du roi Charles IX qui, en 1561, avait décidé de distribuer du muguet à toutes les dames de sa cour et que cette tradition avait perduré dans le temps. Eh bien, il se trouve qu'en fait, ça, c'est une parmi plusieurs théories. Il y en a qui disent que le muguet, en fait, c'est directement lié à la fête du travail. Alors, pour ceux et celles qui ne savent pas, en très 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 bref, le 1er mai, ça correspond donc au 1er mai 1886, quand la classe ouvrière se mobilise dans les rues des États-Unis pour revendiquer des journées de travail de 8 heures au lieu de 12. Il y a plus de 300 000 ouvriers qui se mobilisent de manière pacifique dans tout le pays. Et ils remettent ça quelques jours plus tard, le 3 mai, mais ça a dégénéré, ça finit en bain de sang. Il y a des morts du côté des ouvriers et aussi du côté de la police avec une bombe qui explose le 4 mai. Enfin bref, c'est la catastrophe. Et puis la même chose se passe à Paris 2 ans plus tard. Et donc avec tout ça, c'est comme ça que le 1er mai devient un jour chômé et qui est, ce jour est associé à la lutte des classes. Alors, c'est quoi le rapport avec le muguet? Eh bien, en fait, tout simplement, c'est parce que c'est la fleur qui est arborée à la fin du 19e siècle quand il faisait le défilé du 1er mai. C'était en souvenir des ouvriers qui avaient donné leur vie pour cette cause. Le muguet, en fait, c'était le symbole du renouveau. Mais le muguet, ça correspond aussi à plein d'autres choses différentes, comme par exemple le 1er mai dans l'Antiquité, c'était le jour où les navigateurs reprenaient la mer et donc c'était censé être une fleur qui leur porte chance. Et pour les Celtes, par exemple, le 1er mai, ça représentait le premier jour d'été, donc le muguet était offert en offrande à la déesse Flora pour passer un bel été. Donc il y a plusieurs significations comme ça. Et le muguet n'est pas forcément associé à la fête du travail. Donc quoi qu'il en soit, si vous êtes en congé aujourd'hui, profitez pleinement, allez acheter du muguet, faites-vous plaisir. Et si vous êtes au travail, eh bien force à vous, je vous envoie plein de courage et plein de muguet en Bluetooth. Et justement, pour vous donner du courage, le premier ou la première à me dire pourquoi on offre du muguet le 1er mai gagnera deux entrées pour le plus grand dance floor du Valais. Ce sera ce samedi 4 mai à la patinoire de Montet. Donc voilà, si vous m'envoyez sur le WhatsApp de la radio au 079 364 31 06 une des raisons que je vous ai citées dans cette chronique, vous repartez avec vos deux places. Voilà, voilà.
La question existentielle.
Qui je suis-je? Où je vais-je? Dans quelle étagère?
Radio Chablais, programme de nuit.
Les bons plans?
Où? Sur Radio Chablais.
Ah, voilà, voilà.
Alors ce soir, c'est la 5e étape du Tour du Chablais. Ça se déroulera à Aigle à partir de 18h. Et comme en 2022, l'étape Aiglonne de cette année va vous en mettre plein les yeux, entre villes, forêts, vignobles, châteaux et cloîtres, routes et chemins. Enfin bref, du grand spectacle qui est attendu aujourd'hui à Aigle et sur les rives de la Grande Eau. Et pour en parler un peu plus en détail, on va écouter Yvan Vouillamo, président du Tour du Chablais, au micro de Caroline.
Il est là, fidèle au poste. Yvan Vouillamo, salut Yvan.
Salut.
Le Tour du Chablais qui nous accompagne tous ces derniers mercredis. On en est à la combientième étape? C'est déjà la 5e étape là, hein?
C'est déjà la 5e, en effet.
Et on est de retour en plaine, on est à Aigle.
On est au plein, mais à Aigle, c'est pas que plein.
C'est juste, il y a des coteaux, il y a des vignobles, voilà.
Et c'est ça. Donc c'est une nouvelle association. Alors une partie existait déjà. Donc c'est le club du New Hockey des Eagles, la société de gymnastique Aigle Alliance et le club de basket d'Aigle qui sont associés. Trois sociétés qui se mettent ensemble pour organiser cette étape. Je profite de passer un appel. Si d'autres sociétés sont intéressées à organiser, mais qu'elles se sentent peut-être pas assez grandes, faites la même chose comme à Aigle. Associez-vous à d'autres sociétés sportives et puis faites-le ensemble. C'est beaucoup plus facile pour trouver les bénévoles pour travailler.
Ah, ça, c'est sûr. Puis en plus, c'est gratifiant parce qu'on vit une belle expérience.
Exactement. Il y a des bons échanges entre ces sociétés. Alors, je les connais bien vu que j'habite Aigle. Hein, donc, c'est des sociétés que je connais par cœur. Et ça donne vraiment des synergies qui sont sympathiques. Et ça permet aussi de se lancer, d'organiser, pourquoi pas, la dernière étape qui, en termes d'organisation, est un peu plus dure.
Ok, c'est bon à savoir. Alors là, semblerait-il, on va faire de la ville, de la forêt, du vignoble, un peu de tout, quoi.
On a un superbe parcours qui a été concocté il y a 2 ans et on fait vraiment un mélange. On part depuis les écoles, ensuite on grimpe au-dessus du château avec une vue magnifique sur la plaine. Vraiment un superbe parcours. 8,3 km, ça pique un tout petit peu, 200 mètres de dénivelé, mais vraiment un très beau parcours qui vaut la peine.
En fait, quand je t'écoute, j'ai l'impression que c'est facile à faire le Tour du Chablais.
Alors c'est un peu le but du Tour du Chablais, c'est des courses quand même avec un petit peu de challenge, c'est clair. Et puis au fur et à mesure des étapes, voilà, on en a fait 2 à plat, maintenant on vient d'en faire 3 qui
grimpent un petit peu. Ouais.
Mais c'est normal, la forme s'améliore chaque semaine.
Et on s'adresse comme d'habitude autant aux mini qu'aux écoliers, aux adultes. Qu'est-ce qu'on pourrait rajouter pour ces différentes catégories?
Alors, pour les mini, on va vraiment rester à plat. Hein. Ils vont tourner dans le centre d'Aigle. Les écoliers, un petit peu plus de chemin avec une petite montée côté du château, donc une 50aine de mètres de dénivelé. Mais là aussi, ils ont la forme maintenant. Et puis, pour les adultes, comme on a dit, donc départ à 19h, 18h les mini et 18h20 les écoliers.
Voilà, bon, joli tour, belle balade en perspective avec une vue juste imprenable. À la semaine prochaine, j'ai envie de te dire, Yvan, pour la dernière étape.
À la semaine prochaine.
Les bons plans.
Ouf. Retrouvez vos rendez-vous quotidiens durant la nuit.
Invité.
Plan large.
Jusqu'à 13h.
Entre émotion et évasion. Plan large.
Sur Radio Chablais.
L'entretien de Florian Barbet.
Bonjour Blaise Caron.
Bonjour.
On s'est donné rendez-vous à Villeneuve. Vous allez nous expliquer pourquoi. On est dans un restaurant, on va dire son nom, hein, parce que ça a une importance pour l'histoire, comme on dit dans la littérature. C'est l'Oasis sur les quais de Villeneuve. Pourquoi on est là, Blaise Caron?
Effectivement, on est là pour plusieurs raisons. D'abord, pour moi, Villeneuve, à titre personnel, ça a vraiment une importance parce que j'ai grandi à Fuy. Et quand on était enfant, on venait des fois avec mes parents à Villeneuve. C'était comme si on découvrait le monde parce que on avait la vallée qui s'ouvre, on avait le lac et tout. Donc, j'ai toujours beaucoup d'émotions quand je viens à Villeneuve, même maintenant. Après aussi, quand on avait les enfants, les premiers mini-golf, c'était les mini-golf. On allait à Villeneuve, c'était la fête pour tout le monde. Et puis aussi, dans un cadre professionnel, lors de la fermeture de Tamoil, on donnait rendez-vous plutôt, les repreneurs potentiels nous donnaient rendez-vous, ou les stratèges qui voulaient nous conseiller comment faire, souvent nous donnaient rendez-vous dans ce bistrot, justement, à Villeneuve, pour nous conseiller avec les collègues de la commission du personnel. Donc, c'est avec une certaine émotion que ceci passe à du sens.
On est dans l'après-midi, il y a des tables de vieilles dames qui mangent des glaces, et on ne se douterait pas que ça peut être aussi un lieu de tractation un peu secret et malheureux, ces tractations avec d'éventuels repreneurs de Tamoil, ça n'a pas marché.
Alors effectivement, un peu secret et malheureux, parce que Tamoil a fermé. Moi, je ne me remets toujours pas. Si vous allez maintenant, vous allez sur le site, il n'y a bientôt plus rien. Si vous allez depuis la digue, il n'y a bientôt plus rien. Et puis, je pense que cette entreprise était viable, mais après, la politique a fait que, pas la politique suisse, mais les enjeux politiques ont fait que cette raffinerie a disparu, et puis un savoir-faire aussi a disparu. Il y avait quand même une ambiance très particulière dans cette entreprise, avec l'entente des collègues et tout. Il y a aussi une histoire qui a disparu par rapport à ça, mais c'est la vie qui continue, mais c'est un savoir-faire quand même qui manque dans le Chablais.
Ouais, alors on va parler de ça, c'est intéressant. Vous êtes syndicaliste, je vous ai pas présenté parce qu'on vous entend très souvent sur cette antenne de Radio Chablais. Vous êtes député socialiste. Quand on est comme ça à gauche aujourd'hui, avec la sensibilité qu'on a dans ce camp politique, plus que dans ce camp politique, mais pour les questions climatiques, les questions de la nature, est-ce qu'il y a a posteriori, évidemment sur le moment il fallait défendre Tamoil, mais est-ce qu'a posteriori on se dit une raffinerie c'était peut-être pas l'idéal quand même pour la région?
Alors je persévère à penser que toutes les raffineries du monde devraient être en Suisse, parce que c'est en Suisse qu'on a les plus grandes lois, les meilleures lois pour protéger la santé, les meilleures normes pour protéger la santé des salariés et les meilleures normes environnementales. Alors c'est bien un endroit qu'on doit avoir, où on doit avoir des entreprises qui peuvent générer de la pollution ou des problématiques sur la santé des salariés, c'est bien en Suisse, quoi.
Donc ça, c'était, ça c'est une réflexion qui vous est venue rapidement. Il y a eu cette question, oui. Est-ce qu'il faut défendre une raffinerie?
Toujours,
et puis,
oui.
Finalement, mieux vaut l'avoir ici que dans un pays où il n'y aura aucune norme et les pollutions seront pires.
Tout à fait, comme l'industrie chimique. On a les verts, certaines tranches des verts qui veulent plus de chimie, mais elle doit être, la production de la chimie doit être en Suisse, parce que justement on sait que c'est là où elle est le mieux cadrée, le plus cadrée. C'est très important, c'est aussi notre contribution au monde.
Bon, c'est une tradition que j'ai moi quand je rencontre des personnalités politiques, de leur demander d'où est venue l'étincelle. Comment un jour on se dit la chose publique m'intéresse, j'ai envie de m'engager. Qu'est-ce qui vous a motivé, vous?
Engagé en politique, mais disons c'est plutôt
en politique plus large.
En politique, ouais, dans l'engagement, large, ouais. Mais c'était par rapport au contexte familial où moi j'ai issu d'une famille PDC traditionnelle, mais après on est
comme avait, tout le monde.
Oui, comme tout le monde, surtout à Fuy,
surtout à Fuy.
Et puis disons des PDC, ouverts, où on parlait toujours de politique, souvent de politique à la maison. Mon père était un grand admirateur de la France, il suivait la France. J'ai grandi avec le Nouvel Obs. C'était vraiment, on a toujours baigné dans ces. Mon père était pour De Gaulle, moi j'étais pas pour lui.
Mais... Vous vous souvenez de l'élection de Mitterrand?
De Mitterrand, oui, je suis né à la politique le 10 mai 81. Ça c'était un grand moment d'émotion le dimanche soir quand on avait les strates là qui défilaient. Oui, moi je suis né à la politique le 10 mai 81. Je dois tout à Mitterrand pour mon engagement politique, puis aussi comme stratège. Parce que quand même, réussir à se faire élire dans un pays de droite, même si on peut être pas d'accord sur tout ce qu'il a fait, mais quand même stratégiquement, on doit rendre hommage à la qualité de la personne. Quoi.
J'ai revu cette archive cruelle récemment, ce discours, je ne sais plus où c'était avant 81, où il dit « Celui qui ne consent pas à la rupture !» La méthode, c'est secondaire. « Celui qui ne consent pas à la rupture avec le capitalisme ne peut pas se dire socialiste. » Évidemment, ça ne s'est pas passé comme ça avec Mitterrand. La déception de ce qu'on a appelé le tournant de la rigueur, le virage à droite, vous l'avez ressenti aussi? Vous étiez un peu jeune?
Alors, j'étais peut-être un peu jeune, mais si on fait un bilan sur quand même sur toute sa... ses 14 ans, ça sera le seul président français qui aura eu 14 ans de mandat. Du reste, j'ai été à son enterrement, j'ai assisté à son enterrement, pas dans l'église, mais sur un arbre en face.
Et puis, sur un arbre,
oui, pour bien voir, à côté des journalistes de FR3. C'est quand même, il y a des avancées sociales, il y a eu l'abolition de la peine de mort, mais il y a eu aussi la semaine de vacances en plus, la réduction du temps de travail. On a tendance à voir les côtés obscurs qu'on doit aussi regarder par rapport à son passé, de très très à droite. Mais moi, je suis un mitterrandiste et je resterai un mitterrandiste dans l'âme.
L'union de la gauche, ça a un sens en Suisse?
Bien sûr, surtout en Suisse. Alors que plus on est faible, plus on doit être uni, puis on constate qu'on n'y arrive pas. on voit bien que malgré tout, même si avec entre le PS et les Verts, on dit qu'on est alliés et tout, mais on est des alliés en concurrence. Quoi.
Qui se regardent un peu en biais. Quoi.
Voilà, justement. Ouais. Et ça, c'est typiquement un autogol. C'est typiquement un autogol. Hein. Moi, si j'étais un PLR,
bon, si on regarde des alliances, alors pas en Valais, ça ne se passe pas comme ça, mais dans le canton de Vaud, par exemple, entre le PLR et l'UDC, c'est les mêmes regards en biais.
Hein. Oui, mais ça ne marche pas aussi. Chaque fois qu'il y a le regard en biais, ça ne marche pas. Quoi. Donc, moi, je suis effectivement favorable aux unions, mais c'est facile à dire, ça. Hein. D'une fois qu'il s'agit de mettre ça en pratique, c'est plus compliqué.
Bon, vous êtes député. Je me disais, tiens, un type du Valais central qui vient faire sa carrière politique dans le Chablais. Puis j'ai eu un début de réponse avec cette ouverture au monde grâce au lac. Là, vous aviez un profil particulier pour quelqu'un du Valais central, dont on dit volontiers qu'il considère que le Valais s'arrête à Martigny. Vous aviez cette ouverture plus large. Qu'est-ce qui vous a amené dans le Chablais?
Mais c'est que moi, j'ai travaillé à l'hôpital du Chablais comme tournant au bloc opératoire. Et puis, c'était dans l'ancien hôpital, quoi. Et on était en dessus. Et puis j'ai toujours trouvé cette ville très sympa. Puis le mercredi, je descendais au marché parce que je travaillais en équipe. Et puis après, j'ai habité quelques temps à Aigle. Et puis on avait décidé avec mon épouse, comme j'allais aussi à Genève, où est-ce qu'on va habiter. Et puis j'ai trouvé que monter, ça m'a toujours intéressé. Comme j'ai trouvé que c'était un lieu intéressant parce qu'on allait aussi, bon, je ne sais pas si on peut dire les marques, mais on allait des fois dîner à la Placette à l'époque. Quand on allait dîner à la Placette, le dimanche, c'était notre restaurant. On avait aussi une attirance pour ce lieu à travers ça.
Bon, et le mini-golf, la Placette, j'ai l'impression d'être dans une chanson de Michel Jonas, hein, on suçait des glaces à l'eau.
Mais, c'est pas de la nostalgie, mais c'est vraiment ça qui m'a fait. Puis vraiment, quand on était, je me rappelle des fois le matin, quand on travaillait la nuit, parce que je faisais les gardes de temps en temps au bloc opératoire, puis quand on travaillait la nuit, puis on était vers les 5h30, on fumait des cigarettes, puis on regardait la vallée, monter aussi avec l'usine derrière, il y a quand même une
atmosphère. Donc, ville ouvrière, ça a une importance. Vous allez, après ces expériences-là, vous consacrer au monde syndical, donc à la proximité avec le monde du travail. Cette ville ouvrière, c'est la seule en Valais, dans le Valais romand en tout cas, qui a cette ambiance-là.
Mais alors ça, c'est plutôt venu par la suite, hein, parce que j'ai eu une carrière. J'ai quand même eu quelques activités salariées avant le syndicat. J'ai toujours été de gauche, disons, on ne peut pas dire, si je disais que je suis mieux à monter parce qu'il y avait le site chimique, parce que je serais un monteur, je pourrais le dire,
On peut dire qu'on s'attache à cette ville aussi pour ça.
Ah mais bien sûr, mais bien sûr, les premières mobilisations auxquelles j'ai participé, j'étais pas du tout dans l'appareil, c'était lors d'une grosse restructuration qui avait eu à monter, et puis il y avait un appel à manifester, je suis allé, bien sûr que ça on s'attache aussi pour ça, quoi, mais c'était plutôt l'ambiance. Ouais, c'était mais presque une vision romantique des choses, parce que depuis l'hôpital, vous aviez cet immense site, parce que c'est quand même assez impressionnant, puis on dit, mais il y a des millions qui sortent de là. Nous, quand on était à Fuy, on avait mes amis, quand ils avaient leur père qui rentrait à la CIBA, c'était le début de la fortune, quoi, parce qu'il y avait les bus qui venaient, les cars qui venaient, puis des équipes, les gens qui étaient dans les équipes, ils montaient des bus, et puis c'est comme pour un paysan à l'époque d'aller chez Provins, c'était le début de la sécurité, et lorsque vous étiez dans n'importe quel métier, puis, mon papa il est rentré à la CIBA, c'était la fête pour tout le monde, quoi, c'est clair que ça avait
une ascension sociale.
Voilà.
Ouais.
Effectivement.
Bon, le syndicalisme, du coup, alors quel chemin pour y arriver?
Moi, j'ai répondu à une offre d'emploi. Hein. J'ai simplement répondu à une offre d'emploi, mais j'ai toujours voulu. Ça, vraiment, mon papa, parce que moi, j'étais un petit peu le mouton noir de la famille. Tous mes frères et sœurs ont fait des études et tout.
Le rouge.
Ouais, le rouge, mais à l'époque.
Aussi pour les études.
Ouais, j'ai eu un passé un peu compliqué pour les études. Puis mon papa me disait, Blaise, toi, tu devrais faire assistant social. Ça, c'est ce que souhaitait mon papa. Moi, je voulais pas être assistant social. Je voulais m'engager. Vraiment m'engager, par exemple, conseiller ORP pendant longtemps, conseiller ORP, pour moi, ça a été l'idéal indépassable de l'engagement. Puis après, c'est clair qu'une fois que j'ai vu une offre d'emploi pour secrétaire syndical à la FTMH à monter, vous savez, des fois, dans votre vie, vous dites ça, c'est pour moi ou ça, c'est pas pour vous, quoi. Et puis, c'est comme ça que je suis rentré au syndicat. Puis, je pense que c'est la plus belle chose que j'ai pu faire de ma vie.
En tout cas, moi, je vous connais depuis longtemps. Ouais. Je vous ai souvent interviewé. Ouais. Il y a quelque chose de très charnel avec ce monde-là. Ouais. Vous avez rappelé que vous êtes allé à l'enterrement de Mitterrand. Moi, je vous ai accompagné sur un rond-point pour aller voir les Gilets jaunes. Moi, j'y allais pour faire un reportage, mais vous, vous y alliez pour vivre cette fraternité populaire. On sent que ça, c'est un truc qui vous motive à fond. Hein.
Ah, mais ça, c'est vrai. Et puis, vous avez d'accord, on a super bien passé. On connaissait personne, on va en discuter et tout. C'est comme quand on fait nos mobilisations ou lorsque je vais le plus souvent possible faire des manifestations en France. Mais on se sent porté par le groupe, se sent porté par lorsqu'on est ensemble sur le collectif, quand on fait des mobilisations, les manifestations à Berne, la manifestation annuelle, quand on rentre sur la place fédérale, juste avant de rentrer dans la place fédérale, quand tout le monde crie, tout le monde donne de la voix et tout, on sent que ça donne une force, ça donne une énergie. C'est vraiment quelque chose qui est très très beau à vivre aussi. Là, on travaille beaucoup, nous aussi, avec des tambours portugais qui font un bruit. Mais vraiment, c'est vous rentrez fatigué, mais vous rentrez vraiment gonflé d'énergie.
C'est comme être dans un virage de stade de foot, quoi.
Exactement. Et puis on se bat de manière joyeuse, disons. On n'est pas dans la complainte, on est plutôt pour célébrer aussi le fait d'être ensemble. Il y a de l'amitié, il y a de la solidarité, il y a des petits regards comme ça. C'est vraiment des moments qui sont extrêmement forts émotionnellement.
Bon, on est le 1er mai, hein, c'est le 1er mai que cette émission est diffusée. On s'est vu nous un peu avant, mais on va parler en début de deuxième partie de cette aventure du 1er mai, hein, qui est devenue quand même une date importante pour le mouvement ouvrier, pour le mouvement syndical. On se retrouve dans un...
Radio Chablais, programme de nuit.
Plan large.
Jusqu'à 13h.
Entre émotion et évasion. Plan large.
Sur Radio Chablais.
L'entretien de Florian Barbet.
Voilà, Blaise Caron, on se retrouve pour parler un peu du 1er mai. On est le 1er mai, c'est la fête du travail. Les mouvements syndicaux, hein, nés à la fin du 19e siècle, il y a toute l'industrialisation de l'Europe avec ce qu'on appelait les cadences infernales, avec la difficulté du monde du travail qui a compris qu'en se réunissant, en s'amalgamant, il y avait de la force, un rapport de force. Qu'est-ce qui veut dire le 1er mai ensuite? C'est pas férié déjà, hein, contrairement à plein d'autres pays.
Alors effectivement, ça c'est déjà un symbole, hein, que le 1er mai soit pas férié en Suisse, ça montre quel est le rapport du politique avec le monde du travail. Parce qu'on entend tous les jours des informations sur la bourse. Par contre, sur le monde du travail, on en parle tellement peu qu'il n'y a même pas un jour férié pour ça. C'est pour ça que dans certains cantons, par exemple le canton de Neuchâtel...
Il n'y a pas un jour férié pour la bourse non plus. Après.
Non, mais parce qu'on en parle tout le temps, parce que c'est tous les jours la fête. Pour la bourse, c'est tous les jours la fête. Il n'y a pas besoin de la célébrer, d'avoir un jour particulier pour le célébrer. Mais dans certains cantons, je crois dans le canton de Neuchâtel, il y a eu des initiatives pour rendre ce jour 1er mai férié. Et je pense qu'en Valais, on devrait réfléchir. Ça fait longtemps qu'on réfléchit à lancer une initiative pour que ce 1er mai soit férié, justement pour rendre hommage au monde du travail, parce que qu'on veut ou non, ce sont des salariés, que ce soit dans les chantiers, dans des usines, dans les magasins, partout, qui créent la richesse, ici comme ailleurs. Donc ça serait vraiment le jour pour rendre hommage à l'engagement des salariés pour la création de la richesse dans ce pays.
Bon, je vais mettre un peu de poil à gratter, Blaise Caron. En marchant pour venir vous retrouver, je me disais, le 1er mai, à l'origine, c'est des manifestations qui se sont mal passées. Aux États-Unis, il y a eu des morts, des condamnés à mort, d'ailleurs, un des anarchistes condamné à mort sans preuve parce qu'il y avait eu un policier tué. C'était un combat et c'était de la grève. Est-ce qu'en institutionnalisant le 1er mai, en faisant un jour férié, on ne perd pas cette notion de la lutte, en fait?
Alors, je pense que le 1er mai, c'est plus un jour de commémoration que de lutte en tant que telle. Les luttes, elles doivent être menées. C'est ce qu'on essaye de mener dans le cadre de du syndicat Vie en Valais. Elles doivent être menées sur les lieux de travail lorsqu'il y a un conflit. Parce que de dire 1er mai, grève pour tout le monde, c'est un jour férié, c'est pas la grève, c'est la fête à nono. Puis on mange de la saucisse, puis on chante international. Le 1er mai, c'est quand même, ça a une valeur symbolique de rassemblement aussi pour porter des discours, pour porter des revendications. Le premier 1er mai, il y avait une problématique de temps de travail. On voit que cette problématique, elle est encore sur la table actuellement. Il y a des revendications, même type de revendications à porter, mais la grève, la mobilisation, que ce soit la grève ou sous autre forme, elle doit se faire sur les lieux de travail lorsqu'il y a des conflits collectifs. Là, on est sur des bases défensives, mais elle doit aussi pouvoir se faire sur des bases offensives pour avancer, comme on a pu le faire, par exemple, sur la 13e rente AVS, où là, il y a une mobilisation collective qui s'est faite pour pouvoir passer dans les urnes. Mais moi, je ne suis pas pour des mobilisations, comment dire, au garde-à-vous comme à l'armée. C'est lorsqu'il y a un problème, on se mobilise et on essaye de créer un rapport de force dans la, dans le cas réel et concret que les salariés sont en train de vivre.
Voilà, le rapport de force, c'est cette, cette notion-là, c'est cette appréhension-là, c'est la lutte des classes et Marx, hein, qui donne au mouvement ouvrier sa force et sa cohérence. Et puis, alors, on peut avoir deux lectures, on peut dire que les luttes ont permis les avancées étant ce qu'elles sont, on n'a plus besoin de se battre, ça sera une vision libérale peut-être du monde du travail d'aujourd'hui. Puis on a celle qui doit être la vôtre, j'imagine, que non, il faut garder le rapport de force, il faut rester cohérent. Mais la constatation, c'est que le syndicalisme, ça marche pas en Suisse, ça marche pas en Europe. C'est difficile de motiver les gens à faire du commun.
Alors effectivement, mais je pense qu'il faut, d'abord la lutte elle n'est pas terminée, elle fait que commencer, mais effectivement le discours dominant met en avant l'individualisme, et nous notre rôle c'est justement de ramener la lutte collective au premier plan, c'est ce qu'on essaie de faire modestement, mais elle ne marche pas, mais on ne peut pas dire qu'elle ne marche jamais. Certaines fois il y a eu des grèves récemment en Suisse, c'est pas des grèves qui sont très très spectaculaires, mais malgré tout il y a des grèves. On voit que par exemple maintenant pas loin d'ici on a un problème avec Métropac, il y a une mobilisation qui se fait. Il y a eu des mobilisations qui se sont faites dans le cadre de la construction ou dans le cadre d'autres conflits collectifs où il y a c'est pas nécessairement des grèves, mais au moins des mobilisations collectives qui se font. Et nous, notre rôle, en tant que syndicat, on est persuadé que c'est le seul outil qui permet d'obtenir des améliorations. Les négociations tapis vert, sans rapport de force, c'est pas des négociations. C'est un échange poli d'arguments. Parce que s'il suffisait d'échanger des arguments rationnels pour que les salariés et des augmentations de salaire ou des améliorations de reconnaissance de travail, ça ferait longtemps qu'on les aurait. Mais on voit que faire des négociations sans créer un rapport de force, ou on a tenté de créer un rapport de force, c'est des négociations où les salariés sont toujours perdants. On l'a encore vécu cette année par rapport à la construction, où on avait dit on fait confiance au patron, on fait une négociation autour de la table, comme ça. Il n'y a pas eu d'accord parce qu'il n'y a pas eu de mobilisation, et on a constaté que la moitié des salariés de la construction en Suisse ont perçu d'augmentation de salaire, et ce, malgré un renchérissement quasi à 2%.
Vous nous parlez de combats ponctuels, de mobilisation ponctuelle. Le taux de personnes qui se syndique dans les entreprises, il est quand même très bas. Moi, j'en parlais avec Pierre-Yves Maillard quand il a quitté le Conseil d'État vaudois pour aller à la présidence de l'Union syndicale suisse. C'est le vrai défi. C'est ce que vous venez de nous expliquer là. Ça passe pas chez les ouvriers. L'individualisme a fait son œuvre.
Non, mais il faut être beaucoup plus nuancé. Par exemple, dans tout l'artisanat valaisan, même si c'est pas très spectaculaire, mais dans la construction, l'artisanat, les garagistes, on a plus que le 50% de taux de syndicalisation. Alors ça ne veut pas dire que le 50% des gens feraient la grève demain, mais quand même on a un taux qui est supérieur à 50%, parce que sans ça, les conventions ne sont pas de force obligatoire. Sur la chimie montésane, on a un taux de syndicalisation, si on regarde la population qui est à la production, on a des taux qui se laissent voir. Mais c'est clair qu'on ne peut que augmenter, et on doit, c'est notre rôle, d'augmenter ces taux de syndicalisation pour pouvoir créer des rapports de force. C'est pour ça qu'on a créé une IA aussi, parce qu'on avait constaté que construction, industrie, chimie, en grand, ça allait, mais dans tout le secteur tertiaire, vente, hôtel, restauration, là, on avait vraiment des déserts syndicaux, et là, vous avez raison, on a tout à construire, on a des taux de syndicalisation.
Tout à construire, encore.
Encore,
parce qu'il n'y a pas cette culture ouvrière, justement.
Mais bien sûr, et ouais. c'est notre rôle. On a des taux de syndicalisation.
Les luttes ouvrières, elles ont commencé avant les syndicats. Il y avait cette culture-là de la mise en commun, de faire des bourses pour ceux qui se cassaient la jambe, etc. Tout ça, ça a fondé le syndicalisme, finalement.
Oui, mais tout à fait. Mais dans le tertiaire, mais il n'y avait pas le tertiaire, disons, beaucoup moins à l'époque. Ouais. On a des taux de syndicalisation de 2 à 3%. Alors, c'est clair que là, quand vous allez négocier avec des taux de syndicalisation comme ça, en fait, le patron, il vous donne ce qu'il veut. Et puis, c'est notre rôle. C'est pour ça qu'on est payé, pour améliorer ce rapport de force en augmentant le taux de syndicalisation. Parce que quand même, si je me permets de me parler de notre organisation, Unia Valley est en croissance depuis qu'Unia existe, et cette année on a même battu notre record de croissance annuel. On a eu un taux de 4% de croissance. Donc ça montre aussi qu'en faisant un certain type de syndicalisation, un syndicalisme plus combatif, on a aussi plus facilement des gens qui se reconnaissent dans l'organisation, parce qu'ils ont l'impression que l'organisation essaye de tout faire pour améliorer leurs conditions de travail.
Vous avez évoqué le mot convention collective tout à l'heure, les CCT, alors c'est la paix du travail en Suisse, c'est quelque chose qu'on nous envie, qui a bien des les égards est admirable, mais est-ce que c'est pas ça qui éteint le combat finalement? Est-ce que c'est pas un peu toujours le plus petit dénominateur commun pour les salariés?
Alors effectivement, moi je suis favorable aux conventions collectives lorsque les salariés s'y retrouvent. Mais là on peut constater que sur les 10-15 dernières années, ces conventions collectives, elles ont servi à ce que les profits augmentent et qu'il y ait quasi pas de redistribution de la richesse créée. Donc il faut qu'on trouve un consensus en la convention collective, parce que malgré tout, c'est un outil démocratique où les salariés participent à la définition de leurs conditions de travail, mais il ne faut pas que ces conventions collectives, sous couvert de conventions collectives, il n'y ait aucune redistribution de la richesse créée, si je pense aux sites chimiques notamment, que ce soit par des améliorations du temps de travail en diminuant le temps de travail ou par rapport à des augmentations de salaire qui sont indignes de la richesse qui est créée sur le site chimique, par exemple.
Qu'est-ce que vous faites quand vous militez pas, Blaise Caron? Moi, je vous ai toujours rencontré, évidemment, dans ce contexte-là, hein, celui de la lutte. Toujours très concentré, hein, je vous ai eu à des débats, parfois, à des moments d'échanges d'arguments forts avec des opposantes ou des opposants. Et par ailleurs, je vous vois souvent avec un bouquin. Qu'est-ce qui vous ressource?
C'est un peu bateau de dire ça, mais moi j'aime beaucoup le théâtre, j'aime beaucoup la lecture. Je pense que je ne pourrais pas vivre sans la lecture, sans le théâtre.
Toujours un bouquin dans la poche?
Pas toujours, mais pas assez souvent, mais dès que je peux, oui. Là je suis en train de relire, ça va vous faire peut-être rire, et de relire Descartes, parce que j'ai lu le dernier livre de Mazarine Pinjot. La fille, maintenant vous avez vu, elle signe Mazarine M. Ah, elle a mis le M, puis Pinjot, un livre sur le manque, je trouvais très intéressant de son l'approche qu'elle avait, c'était comment on a réussi à faire du manque, le sans sel, le sans gluten et tout, un argument de marketing. Mais bon, il était un petit peu accrocheur son titre, parce qu'après c'était un livre de haute voltige philosophique. Je vous avoue que j'ai pas compris grand chose, parce que c'était vraiment du tout tout haut niveau, mais elle m'a redonné envie de lire Descartes, et là je suis en train de lire Descartes et ça reste quand même la classe, quoi. Je l'ai là, c'est vraiment très très beau de revenir aux fondamentaux comme ça. Puis ça permet aussi de prendre du recul, de se calmer et puis de voir qu'il y avait vraiment des gens qui sont des génies, tellement c'est écrit de manière sobre, quoi. C'est vraiment très très beau.
Qu'est-ce que vous faisiez le 3 mars dernier?
Le 3 mars?
Ah, vous ne vous souvenez pas, hein, vous avez gagné deux objets de vote le 3 mars dernier.
Ah c'était... Oui, pardon, excuse-moi.
Ah, c'est assez rare dans votre camp pour qu'on s'en souvienne quand même. Vous aviez la loi sur l'ouverture des magasins en Valais que vous avez portée. Le référendum contre cette loi. Et puis les retraites, c'est pas souvent une journée comme ça dans une carrière de gauche.
C'est le moins qu'on puisse dire. C'est tellement rare qu'on n'imprime même pas. Et puis on est focalisé sur le 9 juin, parce qu'on a aussi là des enjeux qui sont très importants par rapport toujours à la problématique du pouvoir d'achat. Mais là, j'ai fait mon travail de syndicaliste et tout, mais on était extrêmement contents. Mais on a aussi essayé de faire une super campagne d'un mois et demi avant de terrain, de proximité, pour porter ces objets qu'on considère comme très importants, bien sûr, pour la 13e rente, pour l'ensemble de la population, et aussi pour les vendeuses, de pouvoir protéger leurs conditions de travail. Ça a été, c'est vrai que, comme vous dites, c'est très très rare qu'on gagne sur des objets aussi importants que ça.
Il y avait une constellation. Hein, tout ce que vous vouliez refuser a été refusé, tout ce que vous vouliez accepter a été accepté.
Non, ça c'était le top, quoi. Il faut qu'on ait le même dynamisme pour porter la campagne pour la limitation à 10% du revenu pour les
cotisations maladie, ouais.
Voilà, les cotisations la malle. Mais moi j'ai vu que les sondages étaient plutôt favorables pour avoir commencé la semaine passée les tractages devant les magasins. Je sens que, en tout cas actuellement, c'est pas le même enthousiasme, parce qu'on sentait pour le 13 mars pour la 13e rente, on sentait quand même qu'on avait le vent dans le dos, hein. Mais là je trouve que pour l'instant on l'a plutôt de côté que dans le dos.
On finit rapidement parce qu'on arrive au bout. Blaise Caron, vous avez une vie et un caractère de militant, vous avez aussi une carrière politique au député au Grand Conseil valaisan. Le rapport entre les deux, on dit souvent que ça peut se contredire Parlement, il faut être patient.
Non mais carrière, attendons-nous, hein, je suis député, hein, je suis un humble député qui essaie de faire au mieux, mais je pense pas que j'ai une carrière politique. Mais moi, ma carrière politique, elle a du sens que par rapport à mon engagement du syndicat. Si j'étais pas au syndicat, je ferais pas du tout de politique. C'est la politique, c'est un moyen de faire du syndicalisme sous une autre forme, où là on lutte de manière plus générale au niveau légal pour faire avancer les choses. C'est à ça que j'essaie d'utiliser mon engagement politique.
Merci Blaise Caron. Merci.
Retrouvez vos rendez-vous quotidiens durant la nuit.
La Minute Hawaïenne
sur Radio Chablais.
Qu'est-ce que ça fait de bien de se détendre?
La Minute Hawaïenne, c'est comme la pizza, mais en radio.
J'ai pas compris.
Aujourd'hui, dans la Minute Hawaïenne, c'est quand même magnifique la technologie. On arrive à des niveaux de ouf. Sérieux, regarde les voitures. Aujourd'hui, elles bipent. Il y a des capteurs de tous les côtés. Des caméras pour reculer, pour avancer. Des systèmes qui t'aident à te parquer. Ça bip. C'est magnifique. Après, ça ne prend pas en compte le facteur humain. Hein, parce que comment j'ai fait pour plier la voiture sur trois côtés différents en un seul mouvement, ça, je me l'explique pas. À part par le fait d'être un loser. Un gros loser. Alors ne vous en faites pas, je vais bien, à part la voiture, rien de cassé. En plus, ça tombe bien, j'avais réussi à mettre du pognon de côté cette année, en cas de pépin. J'ai bien fait, je vais pouvoir l'utiliser. Et finalement, je me dis que dans la vie, ce qui est important, c'est de continuer à aller de l'avant et de faire gaffe avec les marches arrière. Voilà. Loser.
La Minute Hawaïenne.
Sur Radio Chablais.
Qu'est-ce que ça fait de bien de se détendre?
La Minute, c'est comme la pizza, mais en radio.
J'ai pas compris.
Radio Chablais, programme de nuit.
Le bon plan de Cyril vous est offert par Bliblablo de Net Plus et ses services internet, mobile et TV. Bliblablo, le multimédia d'ici.
Se nourrir, s'habiller, se distraire ou se meubler, que peut-on faire aujourd'hui?
Le bon plan de Cyril.
Sur Radio Chablais.
Audrey Cavelius expose en ce moment du côté de la galerie Contre-Contre à Saint-Maurice avec Katia Zagoritis. Audrey Cavelius, bonjour.
Bonjour.
Déjà, nous expliquez votre démarche artistique. Qu'est-ce que vous présentez en ce moment à Contre-Contre?
Alors, personnellement, j'expose deux projets. Un projet qui s'appelle Série, qui est un travail qui vient du théâtre, en fait, parce que moi, je suis comédienne et metteur en scène à la base. Et puis après, j'ai un peu décidé d'aller voir ailleurs si j'y étais aussi. Et donc là, c'est un travail photographique et vidéo qui est présenté avec toute une série de performances. Pardon, pas de performance, de métamorphose corporelle, en fait. J'ai travaillé avec deux autres collègues, danseuses, et puis je leur ai proposé un cadre de travail qui était la transformation identitaire à partir de thématiques, à partir de matériaux, à partir de couleurs, à partir de formes, à partir d'émotions. C'était un peu... On piochait un peu partout, comme des intuitions même, presque, et comme des moteurs de propositions de recherche. Et puis, voilà, je présente toute une série de photos, et puis il y a un deuxième projet qui s'appelle Visage, qui fonctionne à peu près sur le même principe. C'est aussi un travail photo et vidéo. Et là, en fait, dans le cadre de séries, il y avait différentes photos, différentes propositions qui étaient faites. Il y en avait une qui m'avait, on va dire, passablement resté dans la tête, en fait, qui était tout simplement, en fait, un visage qui avait été peint sur le corps. Mais le propre visage disparaissait complètement, quoi. Le vrai visage de la personne, qui était en l'occurrence moi, j'étais le modèle de cette photo, disparaissait complètement. Et donc, du coup, ça s'est resté. Puis j'avais envie d'en faire un vrai sujet, le portrait lui-même, qui est quelque chose qui, à travers l'histoire de l'art, est complètement, se fait partout, se fait depuis tout temps et sans doute va continuer à se faire. Du coup, il y a tout un travail assez, à la fois très littéral, de visage sur le corps, et à la fois très symbolique, qui est avec un corps nu dans un élément naturel, dans la forêt, disons les choses comme elles sont, de faire apparaître des visages, de les faire apparaître et disparaître. Et en fait, c'est tout un travail sur tout ce que je fais moi. J'ai l'impression, j'essaye, ce qui m'intéresse, c'est vraiment l'identité. Et donc là, c'est comment présenter l'identité dans ce qu'elle est profondément, c'est-à-dire un processus dynamique qui ne s'arrête jamais, en fait, qui est tout le temps entre la construction et la déconstruction, qui est toujours en mouvement. Et s'il n'y a plus de mouvement, en fait, il n'y a plus d'identité, en fait, c'est la mort, quoi.
Merci, Audrey Cavelius, vous venez de nous résumer magnifiquement cette exposition. Je vais vous interviewer parce que demain, le 2 mai à 19h à Contre-Compte, il y a une table ronde, justement, avec le double mot modèle, le modèle ou la modèle, et modèle des apostrophes. Et justement, vous serez avec votre collègue Katia Zagoritis, une des deux intervenantes de cette table ronde. On retrouve aussi Walter Tchop, historien de l'art, Sophie Gaudin et Emmanuel Courdenès, qui sont justement des modèles, tout ça modéré par Thibaut Métro. Vous venez de nous expliquer, et puis on va comprendre justement demain de quoi s'inspirent vos expositions et cette table ronde. Il faut venir demain à Contre-Contre, contrecontre.com. Merci d'avoir été avec nous.
Merci à vous.
Se nourrir, s'habiller, se distraire ou se meubler, que peut-on faire aujourd'hui?
Le bon plan de Cyril.
Sur Radio Show, retrouvez vos rendez-vous quotidiens durant la nuit.
Quand je dis que le MAG, c'est une région magnifique racontée par la rédaction de Radio Chablais, je n'exagère pas, même pas un peu. La preuve, avec cette initiative pionnière dans le monde viticole suisse, dont nous partons à la découverte, avec l'association Ivorne Grandeur Nature, qui s'est donnée pour mission de transformer le domaine d'Ivorne en un exemple de développement durable. Pour nous en parler, nous avons Philippe Jex, président de l'association et vigneron de profession, et Thierry Heger, professeur à la Haute École de Changin, qui ont tout de rappeler l'importance de la transition écologique dans le monde viticole. Ils l'ont fait au micro de Julie Gay.
La préoccupation écologique au sein de la population et à une conjoncture économique difficile, le secteur vitivinicole se trouve contraint d'agir de manière proactive pour anticiper les événements à venir. C'est dans ce contexte qu'est née l'association Ivorne Grandeur Nature à la fin de l'année 2019. Sans visée lucrative et apolitique, cette association s'est fixée pour objectif de faire d'Ivorne la première appellation suisse entièrement dédié au développement durable. Son président, Philippe Jex, également vigneron, nous fait le dessin du domaine de cette commune chablaisienne.
Ce domaine viticole, on le voit si vous arrivez par l'autoroute et que vous venez en direction d'Ivorne, c'est un vignoble qui est extraordinairement homogène. On ne peut pas dire qu'il y a de mauvaises vignes et des vignes extraordinaires. Il est d'une altitude moyenne, il est d'un seul bloc, à peu près exposé à la même direction donc du midi, ça veut dire sud-est. Si vous comparez avec d'autres vignobles qui sont proches de chez nous, il est beaucoup plus homogène par son exposition, par sa pente, et puis surtout par ce terroir incroyable qui est en partie une terre d'éboulis. Donc c'est un peu, si j'ose dire, le château neuf du Chablais, puisqu'on a des terres qui sont extrêmement graveleuses, calcaires et absolument idoines pour la culture du Chasselas en particulier.
158 hectares appartenant à 85 propriétaires. Mener un projet de cette envergure, c'est audacieux, selon Philippe Jex. Alors pour qu'il puisse se réaliser, il fallait être crédible, dit-il, et de facto travailler avec des organisations qualifiées. C'est dans cet esprit, et avec le soutien financier de la Fondation MAVA, engagée dans la conservation de la biodiversité, qu'est née la collaboration entre l'association Ivorne Grandeur Nature et la Haute École de Changin. Un partenariat qui a abouti, entre autres, à la création d'un catalogue évolutif de recommandations pour encourager l'adoption de méthodes durables. Thierry Heger, professeur à la HES de Changin.
Ce catalogue contient de nombreux aspects liés à l'enherbement, liés à la gestion des sols, liés à la gestion de l'eau, à la protection de la vigne, à la biodiversité et aussi aux cépages résistants. Donc ça, c'est un cahier des charges assez global et les vignerons doivent suivre les mesures de base et les mesures intermédiaires. Et en plus de cela, ils peuvent choisir des mesures avancées. L'idée, c'est d'avoir un cahier des charges évolutif et chaque année, en fait, on modifie le cahier des charges. Comme ça, ça permet, en fait, d'avoir des mesures de plus en plus durables, mais respecter, justement, les contraintes qui sont liées à ces éventuelles mesures.
Autre projet mené dans le cadre d'Ivorne Grandeur Nature, un projet de thèse qui vient de débuter et qui sera mené par Serena Fantasia. L'objectif de cette thèse est de mieux comprendre quels sont les effets de la sécheresse sur le vignoble. On retrouve Thierry Heger.
C'est une expérience très ambitieuse où on a installé des serres et sous ces serres, en fait, on va simuler différents épisodes de sécheresse qui permettront de mieux comprendre en fait quels sont les impacts de la sécheresse non seulement sur le vignoble mais également sur l'enherbement et le sol. Donc ça, c'est une approche extrêmement originale et on va faire de nombreuses mesures au niveau de la température, de l'humidité. Il y aura aussi des analyses qui vont être faits sur la qualité des baies, des micro-vinifications, pour vraiment bien comprendre quel sera l'impact de ces sécheresses sur le vignoble.
Un projet de thèse, un catalogue de mesures, voilà des exemples d'actions concrètes d'Ivorne Grandeur Nature qu'elle aime partager. C'est ainsi que le 2 mai prochain aura lieu la deuxième journée de la biodiversité à Ivorne. Après une première édition réussie, l'association invite à nouveau la population à découvrir les aménagements réalisés et les mesures culturelles mises en œuvre pour une viticulture durable. On retrouve le président de l'association, Philippe Jex.
Ce projet Yvonne Grandeur Nature concerne tout le monde et il faut vraiment encourager, que ce soit les producteurs, les vignerons ou les gens d'Yvonne, les encourager à s'y intéresser parce que c'est un projet audacieux et de grand intérêt. Et puis on peut juste, en complément de ce que vient de dire Thierry sur ce travail de thèse de Serena Fantasia Yvonne, c'est un projet sur 3 ans qui est extrêmement important, très important, avec beaucoup de participants, étudiants, etc., et scientifiques. Il faut bien sûr financer tout ça. Et on a la chance dès le départ d'avoir un partenaire qui a compris l'intérêt de ce genre de projet et qui a pu financer cette démarche, en particulier cette thèse à Yvonne. Et je dois avouer qu'on a, j'ose dire, une longueur d'avance, en tout cas une chance extraordinaire d'avoir avec nous des mécènes de ce genre-là.
Et on vous rappelle que la journée de la biodiversité se tiendra ce samedi 4 mai de 10h à 16h au départ de la salle de la grappe à Yvonne.
Radio Chablais, programme de nuit.
On continue ce mag avec un mot très difficile à placer dans une... Agrivoltaïsme. Il était pourtant au centre des discussions le week-end dernier à Sion, dans le cadre d'une rencontre intitulée « Le carrefour de la transition ».